VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bon. Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, l'Amérique et vous avec Jean-Roger Billon. Mais d'abord, un tour d'horizon de l'actualité. Le point sur les troubles électoraux au Burundi, alors que les manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza se poursuivent, l'Union européenne, les États-Unis et la Suisse appellent un report des élections. C'est dans ce contexte que la Belgique, premier partenaire du processus électoral, prend ses distances avec Bujumbura. On fait le point avec Timothée Donangmaï.
Nous avons encouragé fortement le gouvernement burundais à prendre des mesures d'apaisement et l'idée d'un glissement du calendrier électoral serait à nos yeux une bonne chose, a déclaré l'envoyé spécial de l'UE pour la région, Koen Verwijker, qui s'exprimait aussi au nom de la Suisse et des États-Unis. Les Pays-Bas et la Suisse ont annoncé la suspension de leur aide électorale au Burundi, emboîtant le pas à la Belgique. En réaction à la répression policière à l'encontre des protestations, l'ex-puissance colonisatrice a suspendu le versement de 2 millions d'euros destinés à soutenir les élections au Burundi. Elle a également interrompu sa coopération policière avec Bujumbura. La mission d'observation électorale de l'Union européenne au Burundi a jugé que les conditions pour des élections libres n'étaient pas réunies pour l'instant, explique le vice-premier ministre Alexander De Croo. Le coût du processus électoral est estimé par Bujumbura à quelque 60 millions de dollars. Le Burundi dit pouvoir en assumer 21 millions.
Clôture du forum de réconciliation à Bangui. Les délégués devant proposer une sortie de crise en RCA demandent le report des élections présidentielles et législatives prévues au plus tard en août. D'après l'AFP, le forum de Bangui en appelle donc aux autorités de transition pour qu'elles introduisent au plus tôt, auprès de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la demande de prorogation à titre exceptionnel de la transition et donc le report des élections réclamées par la communauté internationale. Opération Ville Morte à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les habitants dénonçaient ainsi l'inefficacité de l'armée et des autorités après un énième massacre de civils dans la région. Les miliciens des ADF sont soupçonnés d'avoir tué plus de 300 personnes depuis octobre. Le dernier massacre de vendredi aurait fait 7 morts. Présidentielle guinéenne, l'ex-dirigeant militaire, le capitaine Moussa Dadis Camara, en exil au Burkina Faso, a déclaré à Ouagadougou qu'il est candidat. Il a créé son parti, Force Patriotique pour la Démocratie et le Développement. Au Burkina Faso, les responsables des médias réagissent à la suspension de 3 mois des émissions interactives ordonnées la semaine dernière par le Conseil supérieur de la communication. Le CSC a dit craindre les dérapages verbaux alors que le pays doit tenir des élections en octobre prochain. Au micro d'Israël, Justin Koulibaly, président du Centre national de presse Norbert Zongo.
Au niveau du centre national de presse Norbert Zongo, à savoir essentiellement la situation des journalistes du Burkina, le syndicat autonome des travaux de l'information et de la culture cinématique et de la société des éditeurs de la presse privée, nous sommes contre cette mesure. Parce qu'en réalité, c'est un recul assez grave par rapport à la liberté d'expression et de presse. Surtout que cette mesure intervient 4 jours après la journée de la commémoration de la journée internationale de la presse, où au niveau national, par exemple, nous avions comme thème médias d'État ou médias de service public, quel avenir et quelle perspective. Depuis le combat que nous avons mené après l'assassinat de notre confrère Norbert Zongo, en pleine lutte à l'époque, avec ce qu'on appelait Radio Entreparler, le gouvernement de la 4e République avait pu interdire ça. Mais par la suite, avec les différentes luttes, les médias ont pu quand même, la société civile, les organisations des droits de l'homme et autres, on a pu arracher quand même les espaces de liberté afin de permettre aux citoyens de s'exprimer et de donner leur opinion sur la gouvernance politique. C'est pourquoi nous sommes étonnés que le CSC, sans même approcher les médias, a décidé de suspendre donc faire cette émission interactive sans même concerter qui que ce soit. Nous pensons que c'est une volonté affichée de faire en sorte que les citoyens ne puissent pas même se prononcer. Et surtout, cela intervient souvent dans le cadre de ce que les anciens dignitaires appellent l'exclusion.
En Côte d'Ivoire, les évêques catholiques mettent en garde. Une élection présidentielle apaisée en octobre passe par le désarmement des ex-combattants. Dans une déclaration transmise à l'AFP, la conférence épiscopale salue le retour progressif à la vie civile de plusieurs ex-combattants, soulignant toutefois que beaucoup reste à faire. Crise humanitaire au Soudan du Sud, plus de 300 000 civils se trouvent sans assistance de base dans l'état d'unité dans le nord du pays. L'ONU a en effet annoncé son retrait en raison des combats qui sévissent dans la région.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, le roi Salman d'Arabie Saoudite ne sera pas au sommet américano-arabe convoqué cette semaine à Washington par le président Barack Obama. C'est ce qu'a annoncé hier son ministre des Affaires étrangères, Adel Al-Joubeir, annulant également une réunion à la Maison-Blanche qui avait été annoncée il y a seulement quelques jours. On fait le point avec Lionel Gaïma.
C'est mercredi que doit s'ouvrir le sommet en présence des délégations de 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe en visite à la Maison-Blanche, avant de se poursuivre jeudi avec de pourparlers à Camp David avec le président Obama. Selon M. Joubeir, le roi Salman envoie à sa place le prince héritier Mohammed bin Nayef. Il explique que le sommet coïncide avec le cessez-le-feu de 5 jours et les efforts humanitaires au Yémen voisin, où l'Arabie saoudite a mené une campagne de frappe aérienne contre les rebelles chiites Houthis. Un officiel de l'administration Obama a dit que ce changement n'était pas, et je cite, « en réponse à une quelconque question substantielle ». Avec l'absence du roi Salman, seul l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et celui du Koweït Sabah Ahmad Al Sabah dirigeront les délégations de leur pays. Le sultan d'Oman Qaboos bin Saïd et le président Khalifa bin Zayed Al Nahyan des Émirats Arabes Unis disent qu'ils ne seront pas au rendez-vous de Washington pour des raisons de santé. En revanche, aucune explication sur le fait que la délégation de Bahreïn sera dirigée par le prince héritier plutôt que par le roi Hamad bin Issa al-Khalifa. La semaine dernière, un porte-parole de la Maison-Blanche, Eric Schulz, avait dit qu'il y aurait à ce sommet des discussions sur le renforcement de la coopération sécuritaire avec les nations du Golfe et la recherche d'approches communes concernant les conflits en Irak, en Syrie, en Libye et au Yémen. Les pourparlers porteront vraisemblablement aussi sur les négociations au sujet du nucléaire iranien et les préoccupations des États du Golfe selon lesquelles Téhéran obtiendrait la levée des sanctions tout en préservant sa capacité à fabriquer une bombe atomique.
Au Yémen, au moins 5 personnes ont été tuées et 20 autres blessées ce lundi dans de puissantes explosions déclenchées par 2 raids aériens de la coalition. Selon des sources médicales, les frappes visaient un dépôt d'armes tenu par la rébellion chiite près de Sanaa, la capitale. Les autorités judiciaires du Mississippi, dans le sud des États-Unis, ont inculpé 4 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre de 2 policiers samedi soir. Salwa Jafari nous en dit plus.
La petite ville de Hattiesburg dans le Mississippi n'avait pas enregistré d'attaque meurtrière contre un policier depuis 30 ans. Cette statistique a changé samedi soir quand Benjamin Dean, 34 ans, et Lee Coritat, 24 ans, ont été abattus alors qu'ils venaient d'arrêter un automobiliste. C'est en tout cas la version officielle. Ils ont été transportés à l'hôpital mais n'ont pas survécu. Selon le bureau de la sûreté de l'État du Mississippi, 2 suspects âgés de 29 et 22 ans sont accusés de meurtre et passibles de la peine capitale. 2 autres, dont un frère de l'un de ces 2 accusés, ont été inculpés pour complicité et obstruction à la justice hier dimanche. Au moins un des accusés a clamé son innocence. Ce double meurtre est venu rappeler les conditions dangereuses entourant le métier de policier, à un moment où les hommes en bleu sont sujets à de fortes critiques suite à des cas répétés de brutalité et de meurtres de noirs non armés dans le Mississippi, l'Ohio, à New York, plus récemment à Baltimore, dans le Maryland. Au plan international, la situation a fait l'objet d'une session ce lundi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Dans le cadre d'une évaluation annuelle, le Conseil a exprimé sa préoccupation face à l'usage excessif de la force par les policiers américains contre les minorités. Des appels ont également été lancés en faveur de l'abolition de la peine de mort aux États-Unis. Selon Human Rights Watch, les autorités américaines n'ont pas mis en œuvre la plupart des recommandations qu'elles avaient acceptées lors de la précédente évaluation en 2010.
Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, Morgane Guiriec.
Soyez au cœur de la